Ça va être le moment d'y aller. C'est parti pour la rentrée. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez le QG. Bienvenue chers auditeurs, ce soir on écoute les professeurs. C'est le moment de jouer. Bienvenue dans notre QG. Tu vas pouvoir participer en levant le doigt sur ton clavier. Grâce au site de Radio G, tu vas pouvoir avec nous chatter.
Bonjour joueurs et joueuses radiophoniques, bienvenue dans notre QG, un quartier général pour s'amuser ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est avec vous aussi auditeurs, car cette émission est interactive. Rendez-vous sur le site radio-g.fr et ouvrez le chat pour répondre à nos questions. On dit bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à Jean-Camille qui vient nous rejoindre pour jouer ce soir. Et pour nous accompagner, nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Bonsoir, bonne rentrée à toi.
Merci.
Nous avons Olivier.
Bonsoir.
Nous avons Sonia.
Bonsoir.
Et nous avons, alors qui veut imiter Sandra?
Bonsoir.
Ouais, c'est pas mal, on verra. En tout cas, c'est la rentrée, c'est le thème de ce soir. Bienvenue dans notre QG.
Installez-vous dans votre canapé. Ça va être le moment de jouer. Vous êtes sur Radio G. Et vous écoutez le QG.
Alors on dit bonjour à Mappy qui nous a rejoint également sur le chat. On sent que c'est la rentrée.
Que serions-nous sans Mappy?
Et il y a Yann aussi qui nous rejoint. Je suppose que c'est le Yann de générique de l'excellente émission du dimanche. Ça y est, c'est
parfait,
fait. Oui. Parfait, merveilleux, formidable. Et puis d'autres émissions également. Allez, le thème de ce soir, c'est donc la rentrée, entre autres la rentrée scolaire évidemment. Alors, on va réviser les acronymes. On l'avait fait l'année dernière, mais c'est Madame Feeling Agathe qui nous demande... Oui, Agathe Feeling.
Ah, je crois que c'était en référence à mon précédent quiz.
Non, du coup. Et elle nous demande ce que signifient les différents termes. Donc, on va voir si vous vous souvenez de votre école. Par exemple, CDI, ça veut dire quoi?
Centre de documentation
et d'information.
Et d'information, oh, d'accord. Là, là. Très bien, parfait. CPE.
Conseiller
principal d'éducation.
D'accord, très bien. EPS.
Éducation physique et sportive.
Ah, ça c'est facile.
C'est pas mal. Alors ça va un peu vite pour le chat, hein, mais vous aurez d'autres questions, vous pourrez répondre plus rapidement tout à l'heure. Bonjour à Pollyanna aussi qui nous a rejoint sur le chat. EPS, c'est fait. CAPES. Ah, le CAPES.
Capacité. Ah. Le CAPES, c'est quoi ça? C'est un diplôme.
Certificat d'aptitude.
Professorat de l'enseignement secondaire.
Oui, oh, oh,
bah, je l'ai passé. Ah, je l'ai pas eu.
Pourquoi?
Okay. En histoire géo.
Ah ouais, ok.
AVS.
Assistant vie scolaire.
Alors, c'est pas assistant.
C'est pas assistant.
Mais c'est pas loin.
Auxiliaire.
Oui. Auxiliaire de vie scolaire. Bon, ben, merci à Agathe Feeling, pour cette question. Et si vous aussi, vous avez d'autres questions à nous poser, eh bien, rendez-vous sur le site radio-g.fr, rubrique contact. Et puis voilà, soumettez-nous à la question. Allez, c'est au tour, maintenant d'Olivier de faire sa rentrée.
C'est la question d'Olivier. C'est la question d'Olivier.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau jingle?
Oh non. Mon Dieu.
Bon allez, je vais encore parler cinéma.
Ben non, mais c'est bien.
C'est bien du cinéma.
Et c'est Soso qui m'a donné des idées de films.
Alors, je ne sais pas si elle a fait une chronique, mais elle a fait une chronique pour tout le monde.
Ah, d'accord.
Elle nous a envoyé des trucs pour tout le monde.
Elle est très motivée, là.
Très motivée cette semaine.
Je ne vais pas vous faire deviner des films, mais je vais vous poser des questions sur les films en question. Donc, je vous ai sélectionné 3 films. Et on va commencer par un classique, Les Sous-doués.
Ah, ah oui, Stubac, lequel?
Ah oui, c'est le premier, Les Sous-doués.
C'est pas Stubac, en fait.
Heureusement que j'ai perdu leur prénom.
Ah, vous vous rappelez, il y avait Daniel Auteuil.
Ouais.
Heureusement que les Clément sont pas là, on les aurait perdus.
C'est clair.
C'est clair. Alors, l'histoire, c'est des élèves d'un cours privé qui multiplient les facéties et tentent de décrocher le bac sans se fatiguer.
Mmh.
Alors, des petites questions. D'abord, je veux juste savoir l'année de sortie de ce film.
Oh, c'est dans les 80.
Alors, c'est dans les années 80.
Alors,
ça.
Attendez, prenez votre temps parce qu'il y a Yann qui va pouvoir répondre. Yann, il y a d'ailleurs qui adore ton jingle.
Alors, moi, je dirais années 80. Dans les 86 ou 88.
Ouais, j'aurais dit par là.
Bon, 88, c'est tard. C'était peut-être avant quand même.
Encore avant.
C'est bien avant.
82.
Encore avant.
Alors, Mappy dit 82 sur le chat.
Avant.
Fin 70.
Yann, est-ce que tu veux
alors,
répondre?
C'est les années 80. Enfin, peut-être la fin des années 70. Donc, je connais trop dit du coup.
Ah oui, d'accord. Bah, 79, allez.
Oui.
Ah oui, ok.
Non, bah, un de plus.
80.
Pollyanna avait dit 1985, mais en fait c'est 80.
C'est vieux, mais c'est devenu un classique, on l'a vu.
Donc c'est quelle année, excuse-moi, tu dis
1980.
80 piles, ouais, d'accord.
80 piles.
Bravo.
Alors dans ce film, ils sont dans un cours privé, je l'ai dit, mais moi je veux le nom du cours privé. Est-ce que c'est le cours François Ier, le cours Napoléon ou le cours Louis XIV?
François Ier.
François Ier, je crois, ouais.
François Ier?
Ouais.
À l'unanimité?
Ouais.
Bah non, vous avez faux.
Bah ça sonnait bien.
Ah, ça l'est bien, ouais, ouais. Alors, ils ont évité de dire le cours Henri IV, mais non, c'est...
Napoléon, alors? Non?
Bah non, c'est Louis XIV.
Louis XIV?
Alors là, j'aurais tout sauvé.
Pas du tout.
C'est vrai? Ouais, c'est ça.
Oui, parce qu'en fait, ils passent le bac, c'est ça? Ils ont été recalés, ou c'est ça l'histoire?
Oui. Alors, ils ont été recalés parce que, quel est le taux de réussite au bac?
À l'époque
où ils rentrent. Enfin, à l'époque du lycée, du cours privé.
Ah, du cours où ils sont.
Ah ouais, ça
le taux de réussite. Est-ce que c'est 0%? 1% ou 2%?
1%, il y a toujours un faillot.
Ah, c'était aussi peu, je me souviens plus du tout.
1%.
Attends, j'ai pas compris la question.
En fait, le taux de réussite, quand ils rentrent, en fait, ils redoublent leur année.
Parce que l'école est nulle aussi.
Parce que l'école est nulle.
Ah, c'est ça.
Le taux de réussite, en fait, ils se plaignent parce que le taux de réussite a été quasiment nul. Oui. Est-ce que le taux de réussite est vraiment de 0%?
Oh, il y en a un de 1%.
Ouais, je pense 2%. Qu'il y a toujours un faillot.
Ouais.
Allez, 1%.
1%.
Ouais.
Bah non, c'est tellement nul que c'est 0%.
0%.
Ils ont tous été recalés.
C'est le plus mauvais résultat de l'académie. On n'a pas été de France entière, quoi.
En même temps, faut pas chercher la subtilité dans ce film. Donc, du coup,
non,
voilà.
Je me souviens zéro. Des trucs, ça direct. Fait longtemps, mais oui.
Non, ma pie, c'était zéro.
Alors, c'était marrant, parce qu'ils ont fabriqué, alors, c'est pas une question, mais ils fabriquaient, c'est Maria Pacôme qui joue la directrice, et elle avait créé quasiment une espèce de...
Machine à claque.
Ah oui, c'est vrai.
Qui révise le bac, quoi. Et dès qu'ils ont une mauvaise réponse, ils reçoivent des
tapes. Et une sucette.
Ouais, ils reçoivent des tapes, et puis s'il y a une bonne réponse, ils ont une sucette. Enfin, c'était marrant.
Oui, oui.
Donc, ils sont tellement martyrisés par cette machine qu'ils décident de fabriquer une bombe artisanale avec des pétards.
Oui.
Et donc, ils ont placé ces pétards. Alors, est-ce qu'ils ont placé dans une marmite, dans une poubelle ou dans une couscoussière?
La couscoussière.
Ouais, couscoussière aussi.
Ah, ouais. Ouais, exactement, ouais. C'est bien une couscoussière.
Ok, ils n'ont même pas le temps de répondre sur le chat.
Et d'ailleurs, ils sont
trop rapides.
D'ailleurs, coïncidence incroyable, ils se font avoir parce qu'il y a des vrais terroristes qui utilisent une autre couscoussière pour faire exploser.
Ça donne envie de le revoir, hein,
le bord. Oui.
Bah, si. Et donc, en fait, le cours, le 14, il est complètement en ruine à la fin du film.
Sur le chat, Yann connaît bien le film, apparemment, parce qu'il a bien toutes les réponses.
Alors, plus récent, on va parler du film Les Choristes.
Vois sur ton chemin.
Alors déjà, ça remonte à 2004. Ça ne rajeunit pas. Film de Claude Baratier avec Gérard Jugnot et puis aussi, Jean-Baptiste Mounier, notamment. Puis avec Admirade aussi.
Ouais.
Alors, des petites questions. C'est adapté d'un film déjà existant de 1945.
Oui.
Et qui s'appelait
Les oiseaux dans les
dire, oui. La cage aux oiseaux,
oui.
La cage aux canaries ou la cage aux rossignols.
C'est oiseaux ou rossignol?
Peut-être rossignol.
Allez, moi je vote pour rossignol.
Ouais, les rossignols c'est plus chantant, c'est, oui. c'est ça.
La cage aux rossignols.
Ça je savais pas par contre que c'était un remake.
Lui-même était un autre remake d'un autre film muet, je crois.
D'accord.
C'est un éternel recommencement. Je veux savoir le nom du pensionnat. J'ai des propositions.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que c'est la mare aux grenouilles? Est-ce que c'est le fond de l'étang? Ou est-ce que c'est Flo et Joe?
Non.
C'est pas celui-là.
Dans ce film-là?
Ouais.
Le fond
de l'étang, la mare aux grenouilles, ou chez Flo et Joe.
Alors, on va attendre un petit peu pour voir si le chat ils l'ont.
C'est le nom du pensionnat.
Le nom du pensionnat? Alors, l'école, c'était. Il y avait un nom. L'école avait un autre nom, peut-être.
D'ailleurs, c'est marqué sur le.
Oh non, pas le fond de l'étang, en fait, c'est bizarre. Vas-y, redis le premier.
C'est mare aux grenouilles, non?
Sur le chat, ils disent que c'est le fond de l'étang.
Ben oui, c'est le fond de l'étang.
Ah, c'est le fond de l'étang.
Ils ont raison sur le chat.
Oh, super comme nom.
Alors dernière question pour ce film, Cadmerade, donc il joue dedans, il joue le rôle d'un surveillant et d'un prof de PS, justement de sport.
Ouais.
Mais quel est son nom? Est-ce que c'est Racha, Chabert ou Corbin?
Chabert.
Moi Chabert, ça me fait. Chabert, ça me parle.
Ça, ouais. C'est bien ça, c'est Chabert. Vous avez raison.
Okay.
Alors Racha, c'était plus François Berléand qui jouait le directeur plutôt.
Alors sur le chat, on le dit que ça a été tourné au château de Ravel. Voilà, petite info.
Où ça? Je savais pas.
Au château de
Ravel.
Ravel.
Ah. Et puis juste pour le fun, donc Pierre Morange, interprété par Jean-Baptiste Mounier. Moi, je vous demande quel âge maintenant il a ce petit jeune.
Trentaine d'années.
Ouais,
35.
Pas loin, ouais.
Si,
plus que moi. Peut-être pas quand même.
Oui,
si,
il a 35.
Ça fait 20 ans. Mais ça fait 20 ans.
Il va avoir 35 le 22 décembre.
2004.
En fait, il a 34 ans, parce qu'il est né le 22 décembre 1990. Donc, il a 34 ans. Et 35 à la
maintenant,
fin.
Maintenant, c'est « Vois sur ton chemin
». On l'a vu aux Enfoirés,
ou pas,
notamment.
Ou pas.
Je sais pas ce qu'il
peut-être
fait
qu'il a pas
mieux.
Il chante aux Enfoirés tous les ans, voilà.
Ah oui, mais au-delà de ça,
bah, il a fait quelques téléfilms, mais je pense qu'il a arrêté.
Ouais.
Alors, un autre film pour la route, là. Ce sera mes deux dernières questions. Pareil, dans un film des années 80, je vais vous parler du Cercle des poètes disparus. Mmh. C'est quand même un film culte.
Ah, ça, c'est mon film...
Fétiche.
Ah, oui.
Il n'y a pas de portée pourtant dedans. Hein.
Non.
Alors, dans les films, on connaît tous le fameux Carpe Diem, cueille le jour. Il y a surtout une phrase qui revient, c'est « Oh Captain, my Captain », quand il désigne Robbie Williams, là, le professeur Keating. Et de quel poème est tiré ce fameux titre « Oh Captain, my Captain » Est-ce que c'est tiré d'un poème de Edgar Allan Poe, de Herman Melville ou de Walt Whitman? Je sens qu'ils font beaucoup référence.
Ouais, c'est Whitman.
Ils font énormément référence à ce poète. Walt, ouais. C'est ça, Walt Whitman.
Et d'ailleurs, il y a une pièce de théâtre qui tourne.
Ouais, elle a été magnifique, ouais.
Ouais, moi aussi.
Très, très bien, ouais.
C'est excellent.
Hein. J'étais surprise de voir comment ils avaient réussi à retranscrire
l'intégralité du film dedans, ouais. La mise en scène est très
bien jouée.
Bravo pour Yann aussi, il avait trouvé.
Et dernière question. Donc, dans les étudiants, il y a Neil. Découvre grâce au professeur Keating sa passion pour le théâtre et d'ailleurs il joue dans une pièce de théâtre de Shakespeare dans le film et dans la pièce. Dans quelle pièce joue-t-il? Est-ce qu'il joue un rôle dans Roméo et Juliette, dans Songe d'une nuit d'été ou dans Hamlet?
Attends,
il interprète un rôle dans
pas Hamlet, non, il y avait pas le crâne.
Songe d'une nuit d'été peut-être.
C'est Songe d'une nuit d'été.
Tu l'as bien vu, c'est Songe d'une nuit d'été. Alors, je sais pas quel rôle il avait, mais voilà, il y a un petit rôle, mais oui, c'était ça.
Alors, Yann dit « je sais ». Donc, comme ça, au moins, c'est pratique. Voilà, sur le chat, quand vous savez pas, vous mettez « je sais ».
Bon, est-ce que Mappy répond
valide,
quand
Yann,
même?
On valide, Yann, on valide.
Alors, Mappy, ça fait longtemps qu'elle a pas répondu, mais...
Ah, merci.
Bah, Mappy... Les sous-doués.
Faut dire que vous ne lui laissez pas beaucoup de temps.
Rien du tout sur Grease, non, parce que moi, je suis très déçue. Je voulais apprendre des choses sur Grease.
Non, j'ai fait un choix. Mais merci pour tes propositions.
Voilà. Ok, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Allez, ce soir sur Radio G, elle nous fait un questionnaire de culture G pour voir si on est au point.
Aïe.
G. Voici les questions de Sonia.
C'est la question de Sonia.
Alors, saurez-vous relever le défi de questions pour un champion?
Ah, non.
Bon, pour ma part, j'aurais pu appeler à chaque question, j'aurais pu demander à chaque question l'aide d'un ami.
Ah, et non.
J'ai pas eu un très bon résultat.
On a le chat.
On compte sur vous.
Oh merde. À quel niveau? Brevet, bac.
C'est très actuel et c'est de façon générale un
d'accord,
peu.
Sur, c'est vraiment la culture G quoi.
C'est culture G sur voilà tout ce qui va concerner l'éducation nationale de façon générale. On y va. Allez, n'ayons pas peur, on se lance. Mm-hmm. Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale, encore au moins
pour quelques jours,
on va dire. Ouais. Mais qui était en poste lors de la rentrée 2024? Alors, j'ai des propositions
à vous faire.
Bah,
si, c'est bon. Oui.
On verra, je propose.
Oui.
Alors, est-ce que c'était Elisabeth Borne? Est-ce que c'était Anne Genetet? Est-ce que c'était Nicole Belloubet? Ou bien est-ce que c'était Gabriel Attal?
Bah, c'est Attal.
Attends, on va laisser le chat répondre aussi.
Il y a du piège.
Autour de la table,
donc
on
toi,
y va.
Toi, tu dis Attal.
Ouais.
Il a été à l'éducation.
Oui, il était éducation.
Ils ont fait. Il y a une chaise musicale beaucoup.
Alors moi, j'aurais dit, mais elle n'était pas dans la liste. J'ai perdu son nom.
Alors Mappy dit Nicole.
Oui, Belloubet.
Yann dit Gabriel.
Bah ouais.
Paul Yann aussi.
Ah, t'as raison, il a été ministre. Ouais, si, c'est peut-être
ça. Mais comment elle s'appelait, là, la ministre des Sports, là, qui était un peu neuneux, là? Oui, voilà, parce qu'elle aussi, elle a été aussi en éducation. Et je pensais que c'était elle, et ben non.
Elle est habillée pour la rentrée.
Excusez-moi.
On est en direct quand même.
Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache?
Je pense que c'est Attal, mais je dis Belloubet quand même.
Ouais, moi je fais comme le chat, qu'il y en a deux qui disent Attal.
Entre Attal et.
Ouais, Attal, peut-être qu'il était déjà. En fait,
de mémoire, Attal, il est devenu Premier ministre au moment de la rentrée. Donc, il a été très peu de temps.
Ouais, du coup, c'était pas lui alors.
L'éducation, il est devenu ensuite Premier ministre. Et donc, c'était Nicole Belloubet.
Donc, c'est Mapi qui a raison. Bravo.
Ouais. Et donc.
C'est la période, du coup, sur laquelle.
Eh bien, non, c'est ce que je suis en train de voir.
Pas grave.
Non, c'est pas
non.
grave.
On fait confiance.
Bon. Si, en fait, c'est ça. Il était ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Attal. C'est ça. Donc, il venait. Qui était démissionnaire, mais toujours en fonction, pour autant, lors de la rentrée 2024. Ah, c'était entre les deux.
Oui. Okay.
Bon, donc là, moite-moite.
Bon.
Parmi les nouveautés de cette rentrée, la mise en place du programme EVARS. Qu'est-ce que signifie EVAR? C'est un nouveau programme.
C'est pas le truc sexuel, ça?
Alors, est-ce que c'est économie? Est-ce que les.
Les lettres.
Voilà, les lettres, je sais jamais, c'est anagramme, c'est ça?
Acronyme.
Acronyme, pardon. Est-ce que l'acronyme veut dire économie, valeur ajoutée, rentabilité, spéculation?
Non.
Moi, je le trouvais pas mal, celui-là. Est-ce que c'est enseignement volontaire en art, recherche et sport? Ou bien encore, est-ce que c'est écologie, vivant, agriculture, ruralité, société?
Ouais, non plus.
Ou pour finir, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité.
Et c'est ça, c'est la dernière.
Effectivement.
Et VARS.
Hein, donc, qui est très critiqué, enfin, on va dire surtout par certains.
Sans l'avoir vu, hein, parce que ça ne doit pas.
Bon, c'est... En tout cas, normalement, il doit être mis en place cette année, cette rentrée 2025.
D'accord.
Alors, sur quel sujet concernant l'éducation, Emmanuel Macron a-t-il lancé une convention citoyenne en juin dernier? Alors, est-ce que c'était sur le poids des cartables? Parce que c'est important pour le dos de nos jeunes. Mmh. Est-ce que c'était une convention autour des rythmes scolaires, hein, pour les enfants? Est-ce que c'était plutôt autour des programmes d'éducation civique ou bien est-ce que c'était une convention pour la formation des enseignants?
Éducation civique.
Oh, j'aurais dit civique aussi.
Oui, moi aussi, c'est ce que j'avais dit.
Ouais. J'aurais dit civique.
Mais c'est pas ça.
J'aurais dit le rythme scolaire.
Ouais, et ben bravo Sandra.
C'est les rythmes encore.
C'est les rythmes scolaires.
Ouais, ça revient à chaque fois, ça.
Ben oui, j'étais surprise aussi. Mmh. Ouais, je pensais que c'était autour.
C'est pas foulé, hein.
L'éducation civique.
Ça a donné quelque chose, alors on change de rythme?
Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Cette convention sur les temps a réuni 140 citoyens et citoyennes qui avaient été tirés au sort. Et ils ont pour mission de répondre à la question comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage et à leur développement ainsi qu'à leur santé. Donc ça, c'est en cours en fait.
D'accord.
Ah, d'accord. Bon. Ils vont réduire les vacances scolaires.
Bah oui, c'est ça, question. Je crois que c'est ça. Plutôt.
Ouais, puis voir est-ce que c'est les 4 jours ça fonctionne bien aussi ou pas, oui. Est-ce qu'il y a besoin d'étaler ou sûrement.
Mais dans beaucoup d'autres pays, en fait, l'après-midi, ils font du sport, de l'art, etc. Ouais. Et il paraît que du coup, ils apprennent mieux en réalité.
Ouais. Mais du coup, là, on demande à des gens, c'est pas des spécialistes en fait, chacun donnera son avis comme ça.
Bah là, en tout cas, ils seront peut-être aidés et accompagnés par des spécialistes, mais entre autres, là, c'est une convention citoyenne.
Ok.
Alors, quel ministre de l'instruction publique du 19e siècle, a mis en place les premiers congés scolaires à l'échelle nationale?
Ah, il n'y avait pas de congés scolaires avant?
À l'échelle nationale.
À l'échelle nationale.
Ah, c'est que c'était les tranches.
Ouais, chacun faisait comme
il voulait. Donc, autant vous dire que année 1833-34.
Oh là là là.
Moi, j'en connais qu'un, mais je sais pas.
Alors, était-ce Victor Duruy?
Comment il va?
Jules Ferry?
Parce qu'il est mort, le pauvre.
Hippolyte Carnot ou François Guizot? Et là, on peut faire appel à un ami.
Bah ouais,
je crois qu'on va faire
Jules
ça.
Ferry, ce serait.
Sûrement, les autres sont aussi ministres. Hein.
Mais c'était cette époque-là, Jules Ferry?
Carnot.
1800?
Ça n'aura pas.
Ça aurait pu être Carnot aussi, ouais, mais.
On demande l'aide des auditeurs.
Alors, Mapi nous dit Jules Ferry.
Ah oui. Ah, Mapi, c'est.
Mapi alors, Yann nous dit Elisabeth Borne.
Ça, c'était.
Alors, c'est pas, même pas Borgne, hein, c'est Borne.
Immortel.
Allez, Jules Ferry.
Alors. Jules Ferry, tout le monde. Bon, c'était ma réponse aussi, mais non, j'ai eu zéro pointé.
C'est Carnot.
Carnot.
Il s'agit, de François Guizot.
Ah,
ou Guizot.
D'accord. Bon, bah non.
Sous la monarchie de Juillet, à la suite de la loi Guizot, excusez-moi, je ne sais pas si je prononce bien, sur l'harmonisation de l'instruction primaire, la durée des vacances est fixée à 6 semaines maximum. Mmh. Donc, ça a été statué en 1834.
D'accord. Bah, ça a beaucoup augmenté depuis, hein.
À 6 semaines, ouais.
Beaucoup plus, hein. Tu regardes déjà les 2 mois et plus toute l'année.
Alors là, on va compter maintenant. Si on totalise les écoliers, les collégiens, les lycéens, selon vous, combien y a-t-il d'élèves en France? Alors.
Oui, il vaut mieux des chiffres là parce que.
Je vais vous faire des petites propositions.
D'accord.
Est-ce qu'il y aurait environ 5 millions, d'élèves en France ou bien 9 millions? 12 millions ou 15 millions?
Non, alors on est 60 millions. 15 millions, ça ferait beaucoup quand même.
Ouais, alors 5, 10, 15, c'est ça?
5, 9, 12,
15. Oh, 9.
Alors on a 9 à ma gauche.
Yann dit un certain nombre, je pense qu'il a raison.
15 pour Sandra.
Ah, je vais dire 12.
Allez. Mappy 9. Dit trop, va falloir que tu t'expliques, Mappy.
Et Olive?
9.
9 pour moi, oui.
Eh bien, le compte est bon pour Jonathan.
C'est 12.
C'est 12 millions.
Ah, ça fait quand
environ
même
12 millions d'élèves, une grosse moitié en maternelle et primaire, et un peu plus de 3 millions de collégiens et 2 millions de lycéens.
Ah oui. Ah, il y a quand même pas beaucoup de. Il y a beaucoup moins de lycéens quand même.
Il y a du monde quand même.
Ouais, il y a du monde.
Bravo à Mappy qui a trouvé.
Ouais. Alors ça, peut-être que ça va vous parler un petit peu plus. Quelle personnalité a dénoncé il y a quelques mois une censure du ministère de l'Éducation nationale? Quel artiste? Enfin, quelle personnalité?
Une personnalité.
Est-ce que c'est le chanteur Jules, le footballeur Jules Koundé, le dessinateur Jules ou les musiciens J. et Hall? Ça vous dit rien?
Pas du tout. Le dessinateur.
Bon, non, pourquoi il aurait fait ça?
Ouais, Jules Koundé, parce que tu connais pas les footballeurs.
Oui, c'est vrai, elle aurait
pour
pas
le
pu.
Coup, j'ai bien répondu à cette question, ouais. Figurez-vous.
Ah
bon,
ça. Alors, Yann nous dit Jules. Ah, va pour Jules.
Lequel?
Jules,
le dessinateur ou le chanteur?
Alors, sur Internet, ils disent le dessinateur.
Ouais, j'aurais dit.
Ouais, bravo.
Ah bon?
Ouais, bah.
Il lui avait demandé, mais je sais.
Ouais, pour
je
un
sais
album, pour son album, il a fait
ouais,
un
il
album.
Est connu, donc il lui avait demandé une version de La Belle et la Bête, illustrée donc par le dessinateur Jules. Et au final, avec leur accord, hein, quand c'est arrivé, ils l'ont retoqué en trouvant que voilà, c'était pas adapté à une lecture d'élèves de CM2.
D'accord.
Donc voilà.
Très bien. Une petite dernière.
Une petite dernière, alors attendez, qu'est-ce que je peux vous trouver de sympa?
Une facile.
Une facile.
Oui, parce que ça reste quand même beaucoup sur la politique. Hein.
Là pour le moment, mais j'en avais plein d'autres. Oh, tiens, celle-ci, ça m'a fait rire.
Oui.
Qui a eu cette idée folle un jour dans l'école? Donc ça, vous retrouvez la chanson de France Gall.
Ouais.
Sacré Charlemagne, oui. Et qui a écrit les paroles de cette chanson? Est-ce que c'est Michel Berger? Non. Serge Gainsbourg, France Gall ou Robert Gall?
Robert Gall.
Qui est le papa de France Gall.
Ah.
Gainsbourg, ça m'étonnerait quand même, elle était jeune.
Gainsbourg,
à l'époque.
C'était les
sucettes. Ouais,
je dirais ça, moi.
Non, mais Robert Gall, moi, ça me dirait bien au début. Parce que c'était votre.
Eh bien, c'était Robert Gall, effectivement, qui était parolier et père de France Gall et qui a écrit de nombreuses chansons, donc dans les années 60, effectivement, et Gainsbourg est arrivé après. Bravo! Moi, c'était pas trop mal quand même.
Bah ouais. Puis merci à l'autre chat. Ils ont pas mal aidé également. Est-ce qu'ils vont nous aider pour la suivante? Je ne sais pas. On va mettre carte sur table et sortons nos tatotans avec nos badges et autres pins. Voici sorti de son cartable les questions de Sandra.
C'est la question de Sandra!
Alors, donc je vais vous parler du cartable, un objet qui est indispensable pour la rentrée, aussi bien pour les enfants que les adultes. Les adultes aussi ont leur petit cartable, parfois.
Mm-hmm.
Donc, ça va être plutôt les cartables, on va dire, dans les pays, en fait, les différents pays. Donc, au Japon, par exemple, comment s'appelle le cartable? Est-ce que vous savez le nom du cartable?
Le japonais.
Comment tu veux qu'on sache?
Évidemment, je vais pas vous le faire.
Enfin, des
comme ça, je vais vous faire
des propositions.
C'est pas de propositions, mais j'ai décidé de faire un petit rébus en fait.
Ah, ok.
Ah oui.
Alors, on y va.
Alors, diminutif de la randonnée, c'est assez facile.
Rando ?
Une rando.
Rando.
C'est pas harakiri des fois, non ?
Rando, non, ça commence par rando.
Ça commence par rando déjà.
Ah, bah, je voulais faire une blagounette, mais je l'ai ratée.
C'est le seul mot que tu connais en, en asiatique, c'est ça ?
Rando. Possessif.
Son ?
Son, ça.
Rando. Ça.
Mais. Ma.
Presque. Ma.
Le.
Son.
Presque, ouais.
Alors, ça, non. C'est.
C'est.
Son.
Ouais, ça. C'est.
Mais.
Ce.
Ce.
Ah, ce. Ce. Ouais.
Rando ce.
Rando ce.
Voilà.
Ensuite.
Et ce n'est ni une avenue, ni un boulevard.
Une rue.
Une rue.
Une rue.
Rando ce rue.
Rando
c'est rue.
C'est rue.
Je veux dire cartable.
En fait, je crois que c'est où.
Rando
c'est
rue. Rando c'est rue.
Rando c'est
rue. D'accord.
Voilà.
Donc alors, c'est... ma fille, c'est ça, il y a l'humour. Si vous voulez voir ce qu'elle dit, vous allez sur le chat.
Je suis curieux, je vais aller voir.
Non, on vous laisse.
Je n'ai pas d'accès.
Oui, bon, on vous laisse. Alors, sans, d'accord,
donc,
ensuite.
En fait, le Rando Cero, donc, c'est un cartable japonais qui ressemble à un sac à dos en cuir avec une forme particulière, le dos arrondi. Et en fait, c'est une tradition de l'offrir à l'école primaire pour qu'il dure toute une vie.
Oui.
Et en fait, il se transmet de génération en génération.
Ah oui, donc c'est super solide en fait.
Ah oui, c'est très solide et du coup, il coûte très cher, dans les 400 euros au moins.
Ah oui.
Et il est très lourd, entre 5 kilos, il peut aller jusqu'à 10 kilos parfois, même pour les
même
petits.
Vide ? Non.
Non,
oui.
Même plutôt avec...
Quand tu crois des choses dedans, d'accord.
Voilà. Donc, mais vraiment, c'est, enfin, là-bas, c'est ça qu'ils ont, tous les Japonais et même les adultes aussi.
D'accord.
Donc j'ai découvert ça, voilà, sur Internet, vous regardez. Donc aux États-Unis, les parents équipent leurs enfants d'un cartable. Alors, fluo pour mieux les voir, XXL parce que ils ont beaucoup de fournitures comme les maisons sont XXL donc pareil. Ou alors blindé pour faire face aux fusillades.
Voilà, bah, peut-être oui. Blindé.
Alors,
sais,
ouais,
blindé.
Ouais. Je crois que j'ai vu passer un truc. Alors fluo, ça me dit aussi, mais blindé.
Un peu des trois finalement. Ils ont fait un mix des trois.
Ouais.
Ça aurait pu.
XXL blindé fluo.
Non, je pense que c'est fluo, parce que blindé, ça fait quand même. Mais c'est possible.
Alors, effectivement, donc, c'est Bruno qui a raison. Donc, en fait, c'est blindé.
Voilà. Ah, c'est blindé quand même.
Ah oui.
Ouais, en fait, ouais, des cartables blindés qui commencent, voilà, qui sont, comment dire, dans le commerce, quoi, pour faire face aux fusillades. C'est soit ils sont équipés déjà, ces sacs à dos, soit ils sont, on rajoute une plaque par balle dans le sac à dos qu'on achète à part.
Ça fait peur quand même.
Ouais. Ah, là.
Dans quel monde vit-on ?
Donc c'est de plus en plus. Et d'ailleurs, ils disent, du coup, si il y a le, enfin, je sais pas, il y a le feu ou il y a quelque chose d'urgent, il faut quitter l'école.
Mais prendre son cartable quand
général,
même pour se protéger.
Voilà, il faut prendre le cartable et pas dire on laisse tout, quoi. Parce que le cartable est là pour protéger.
Mmh.
Donc ouais, ça devient. Au Mexique, on a testé les cartables minimalistes, invisibles ou transparents.
Transparent pour savoir s'il y a des armes dedans, je pense.
Ah,
oui, je pense que c'est ça.
Oui, je crois que c'est transparent.
Ouais.
Ouais, transparent. Ouais. C'est ça. Oh,
qu'est-ce que c'est moche.
Donc voilà, pour voir voilà, s'il y a des armes ou de la drogue, en fait. Donc, ça permet de lutter contre le trafic et la violence.
C'est d'un chic.
Ouais. Ouais.
Il y a des choses à cacher, Bruno.
Non, pas du tout.
Ah,
du
en Aix-en-Provence, donc voilà, donc pour porter bonheur, on jette les cartables en l'air, on bénit les cartables. Ou choisis un cartable.
Où ça, j'ai pas entendu le.
En Aix-en-Provence.
En Aix-en-Provence.
En France.
Alors, redis les propositions.
Aix-en-Provence.
Tu peux répéter les propositions.
Donc, pour porter bonheur, on jette les cartables en l'air. Okay. On bénit les cartables. Ou vous choisissez un cartable vert.
Il y a de la région, attention.
Ah, oui.
Ah non, je suis pas de la région.
Non,
ah non, c'est trop, ouais. c'est trop à l'est.
Il y a rien qui me parle. J'ai jamais entendu parler
jeté
de ça.
En l'air, ça me dit rien. Là-bas, tu
pour
jette...
porter bonheur, c'est ça?
Ouais,
ouais c'est
on
ça.
Jette plein de choses en, là-bas, les tomates, les machins, tout ça, pourquoi pour les sacs? Moi, on les jetterait pour moi.
Ouais, ça aurait pu.
Donc ça, c'est à la rentrée?
Ça aurait
pu, c'est à la rentrée ou c'est plutôt en fin de cursus?
Non, c'est à la rentrée.
Alors moi je dis qu'il est vert.
Oui aussi.
Alors vert, c'est, oui, ça peut aussi parce que ça porte chance le vert.
Voilà. Ouais.
En général, c'est plutôt
c'est
dans les pays
ça,
asiatiques en fait qu'on choisit un cartable vert.
Ah mais c'est pas ça, c'est pas
et
ça.
Et c'est pas ça, donc c'est on bénit les cartables.
On les bénit.
Ouais.
Ah oui.
C'est
bon.
Voilà.
Donc
c'est une petite tradition qui se fait de plus en plus.
Mais pourquoi pas ?
Voilà.
Où il y a un prêtre qui vient
ouais,
pour.
Ouais c'est ça. Ah, oui, c'est okay. Vraiment dans voilà.
Oh là là, c'est bizarre ouais.
Voilà. Bénissons.
Bon, c'était les cartables insolites, un peu.
Tu m'étonnes.
Et on va terminer par la question, effectivement, qui a inventé le cartable ?
Ah.
Quand a été inventé le cartable, plutôt ?
quand, d'abord? Alors, c'est 18e?
En même temps que l'école.
Au Moyen-Âge, au 16e siècle ou au 20e siècle?
Ah,
20e.
Charlemagne.
Non, pas Moyen-Âge.
Ouais, 20e.
Je pense.
Un 20e?
Bah,
après. Ouais. Bah, vraiment, le cartable comme nous, on l'entend.
C'est vrai, avant, ça pouvait être une bourse ou un truc.
Même un sou, non? On n'aurait pas un sou aussi, des fois, ils ne mettaient pas.
Ah, t'as été à l'école avec un sou?
Non, mais j'ai vu des vieux films où des fois, ils mettaient ça dans un sou.
D'accord. Sur Internet, ils disent Moyen-Âge, mais je pense pas.
Leur cantine, là.
C'est dans Harry Potter qu'ils avaient un seau.
Moi, ils avaient tout sur place. Ils avaient leur hardware déjà sur place.
Dans la petite maison à la prairie, ils mettent pas ça dans un seau.
Je dirais 20e.
20e, bon, allez.
Alors, c'est 20e, effectivement.
Ah ouais, c'est 20e.
Moyen-Âge, plus des sacoches, des trucs très souples. Et du coup, le cartable tel qu'on l'entend, c'est au 20e. Et donc ça vient du mot carta qui veut dire papier, c'est un contenant à papier en fait, ça signifie.
D'accord.
Bah oui.
Et avant c'était plutôt des petites pochettes assez fines en cuir, on mettait nos feuilles de papier dedans.
Ah oui. Ils ont toujours les cartables les gamins. C'est des petits, je sais pas.
C'est ah bah oui, ils ont toujours
des sacs
à dos. Toujours.
Des valises à roulettes maintenant.
Bah soit ça, soit les sacs à dos. Je vais pas parler de sacs à dos.
Je pense que quand t'arrives collège lycée, c'est le sac à dos.
Sac à dos.
Mais avant c'est quoi?
Et avant t'as les cartables souvent, je pense en primaire quoi.
Ouais.
Mais alors à vous, est-ce que vous avez eu un cartable?
Bien sûr.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Moi, j'avais un Tatotans.
Un quoi?
Un Tatotans, c'était avec du cuir retourné. C'était un peu velours.
Pas du Tans.
Ça aussi.
Tans, ouais.
Tans, ouais.
C'était, ils étaient marrons. Et dessus, on mettait des pins. On collait dessus et puis des... Alors, vous n'avez pas eu ça, vous?
Bah non.
Moi, je me souviens de...
Olivier, il a eu ça.
Je me souviens que j'ai eu
un Tatotans.
Non, c'est pas ça. J'ai un sac à dos jaune fluo que j'avais choisi.
D'accord.
Les sacs à dos, souvent, c'était Easy Park. Je me souviens de la marque.
Ouais,
Ah, toi, t'avais Easy Park, toi?
Bah, un truc comme ça. Bon, c'est pas Easy Park, mais.
Alors, il monte son sac à dos. Oui, d'accord.
Easy Pack.
D'accord. Bah, sur Internet, dites-nous ce que vous avez eu comme sac à dos. Un petit peu, puis on verra si on a eu les mêmes. Les DAP. Qu'est-ce qu'il dit?
Ah, j'ai dû avoir un cartable Tortue Ninja.
Ah non, le DAP, je crois qu'il me disait. Je crois qu'il me disait que c'était un sac à dos, mais non, il disait que c'est le DAB qui bug, c'est-à-dire le son en numérique pour ceux qui nous écoutent. Passons en FM alors.
Voilà. Ah, s'il avait un sac US.
US, ah bah oui, US. Les sacs US, forcément, les trucs en jean, là, en jean vert.
Et la part
où on mettait avec les stylos dessus, on faisait des dessins dessus.
La part Via Aero aussi, Via Aero.
Et c'est les sacs à bandoulière, là, c'est les...
Ah, ça, c'est les bananes.
Ouais, je sais plus le nom. Mais le sac US, c'est pas ça? C'est pas censé être
sac sportif? Sac US, ça, moi, je voyais plus ça en sac à dos.
Ah, c'est un sac à dos,
ouais.
Tu vois, je pensais
pas. Tu collectionnes pas les cartables, ça, non?
Oui, c'est vrai qu'elle pourrait. Elle pourrait dans tout ce qu'il y a. Hein. Allez, vous êtes toujours sur Radio G, on est en direct et vous pouvez jouer avec nous grâce au chat, bien sûr, sur site radio-g.fr. Et vous savez, il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur chat et puis vous parlez avec nous en direct. Allez, on parle rentrée ce soir et quand on parle rentrée d'école, il nous invite à la plus magique d'entre elles. Voici la chronique de Jonathan.
C'est la question de Jonathan.
Ah oui, c'est simple.
Ah oui, j'ai fait ça. Cette année, on va faire ça.
C'est efficace.
C'était du Corée.
Hein.
Voilà.
Oui, t'as un peu vendu le truc, effectivement. Donc, qui dit rentrée dit école, et dit école dit Poudlard.
Ah.
Donc, j'ai préparé un petit quiz Harry Potter avec une question par livre.
Par livre.
Alors, ouais, mais du coup, il n'y aura qu'une seule question sur l'épisode 7. Le livre 7.
Oui, qui était en deux fois.
Qui a été divisé en deux, en deux films. Voilà.
Peu importe, on va répondre. Allez, vas-y.
Donc, j'ai cette question. Livre 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers.
Mm-hmm.
Oui, je précise, le niveau est intermédiaire. Donc,
il faut être connaisseur un peu d'Harry Potter.
Voilà, un petit
Sandra,
peu.
Sandra, tu connais Harry Potter?
Bah, je l'ai vu, mais après, je n'ai pas retenu. Bah, je voyais.
Bon, on va voir. Au pire, j'aurai des propositions si vraiment vous séchez.
Et puis, on a le chat pour nous aider aussi.
Hein. Voilà. Première question, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Quel est le nom du chien à trois têtes qui garde la trappe menant à la pierre philosophale? Alors je vous laisse cogiter et puis je vous propose des choses si jamais...
C'est pas Cerbère.
Doug, alors attends, comment
ça... C'est pas Cerbère.
Doug.
Alors c'est un nom...
C'est un prénom, c'est un...
Doug.
C'est un peu ridicule comme nom. C'est le seul indice que je peux vous donner.
À trois têtes.
Ronflard, ronflette.
Il garde quoi déjà, le chien à trois têtes, là?
Il garde la pierre philosophale. Enfin, la trappe qui mène, du coup, à la pierre philosophale.
C'est bête.
Ah oui, alors le nom de ce chien a plusieurs têtes.
Je peux vous proposer à
alors pendant qu'il cherche sur on peut raconter un peu l'histoire, il fait quoi, il l'endorme, c'est ça, avec une
Oui, exactement. Donc c'est un chien très dangereux, mais il a une faiblesse, c'est que on peut l'endormir dès qu'il entend de la musique.
D'accord. Donc voilà. On fait un petit sort avec une musique et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à passer.
Exactement.
D'accord. Bon bah sur le chat, ils nous aident pas. Hein.
Non. Bon, alors première proposition Norbert. Deuxième proposition Croutard. Oui.
Non,
troisième position, Touffu.
Ah bah alors ça doit être
c'est Touffu. Attends.
C'est le premier.
Norbert. Mais non, Touffu, c'est l'autre. Non, ça peut être que Norbert.
Norbert,
alors du coup. En version française, du coup.
Bravo, Sousso. C'est Touffu.
Ah, c'est Touffu.
C'est Touffu. Voilà.
C'est Touffu, Touffu.
Touffu, Touffu. T-O-U, 2F. Voilà. Donc, un point à ma droite. Donc, Sousso est à ma droite. Livre 2. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Qui ou quoi est accusé à tort d'être le monstre enfermé dans la chambre des secrets?
Ah ben c'est l'araignée?
C'est la petite là. C'est la petite fantôme? Non, c'est le basilic.
Dans le livre 2,
Basilic.
La chambre des secrets, qui ou quoi est accusé à tort d'être le monstre enfermé dans la chambre?
C'est l'araignée d'Hagrid.
Ouais, est-ce que t'as le prénom? Enfin, son nom.
L'araignée.
Oui, la grosse araignée qui a été après dans la forêt.
Ou accrochue.
Comment elle s'appelait cette araignée?
Archimède.
C'est la première lettre est bonne.
Arachné,
c'est bon. Est-ce que t'as la fin du
arachide?
Je vais peut-être arriver à le placer celui-là.
Arabesque.
Oh là là, oui, aidez-nous Arac. Sur le chat.
Pas de C,
la grande araignée.
Arachné. Voilà, ça sert à rien que je vous propose les propositions parce qu'il y en a un seul qui commence par Ara, donc vous trouverez tout de suite.
Ah oui. Mais Aragon.
Ah oui.
Presque. C'est la dernière lettre qui est pas bonne.
Aragon.
C'est une lettre qui se répète, qui est déjà dans le mot, dans le prénom.
Aragor.
Non.
Aragawa.
Bon, alors vas-y.
C'est Aragog.
Aragog.
Ah, oui. Exactement.
Ah oui, Aragog.
Donc, c'est une acromantule, une espèce d'araignée monstrueuse capable de parler.
Ah bon, elle parle. J'ai pas le souvenir de ça.
Elle parle de ses enfants et elle les envoie sur Harry.
Exactement. Okay. Hagrid l'a recueilli alors qu'il était encore élève à Poudlard. Voilà. Livre 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Comment s'appelle le sortilège qui protège les sorciers contre les détraqueurs?
C'est un truc qui fait rire.
C'est pour faire la biche là qui apparaît.
Patronus. Bravo.
Le patronus.
Exactement. Et comment est-ce qu'on invoque comment est-ce qu'on invoque ce sort? Est-ce que tu connais le
Patronus?
La formule,
la formule
dedans,
latine. Ouais, c'est ça, la formule magique.
Il n'y a pas patronus dedans?
Presque.
Patronum.
C'est expecto patronum.
Yann avait trouvé.
Expecto patronum.
C'est donc celui d'Harry Potter, c'est le cerf, c'est ça, ou la biche? Celui de sa mère ou de son
c'est
père?
C'est le cerf, je crois. C'est la biche.
Bah oui, c'est ça, c'est le même.
Je crois que c'est le même, du coup.
C'est
même
quand c'est
la biche.
Moi, je pense que Rogue était son père. Mais
non.
Après, tout le monde dit
que
non, et voilà, et c'est pour ça qu'ils ont le même patronyme. Mais bon, après, je ne voudrais pas faire de polémique.
Tout a été dit, voilà. Livre 4. Harry Potter et la coupe de feu. Quel événement magique est au cœur du quatrième tome d'Harry Potter?
La coupe de feu. Non. Avec Diggory là.
C'est le retour de Voldemort.
Il y a les trois écoles.
Oui.
Il y a trois écoles qui viennent s'affronter.
C'est le tournoi
des trois nations.
Presque des trois sorciers.
Le tournoi des trois sorciers.
Donc c'est pas la coupe, mais un petit piège.
D'accord.
Effectivement, c'est un tournoi qui fut créé pour renforcer les liens entre trois grandes écoles de sorcellerie européenne, Poudlard, Durmstrang et Beauxbâtons.
Et c'est pas que du Quidditch, parce qu'ils nous disent du Quidditch sur Mappy.
Non. Et chaque école sélectionne un champion via la coupe de feu.
C'est ça. D'accord.
Et un nom est recraché de cette coupe de feu.
Là où il meurt. Grégory.
Oh, mais va pas nous spoiler.
Cédric Diggory, c'est ça. Livre 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Comment s'appelle la pièce dans laquelle l'armée de Dumbledore s'entraîne à la défense contre les forces du mal à l'abri du regard de Dolores Umbridge?
La salle sur demande.
Ouais. Alors, j'ai plusieurs propositions.
je viens de donner la réponse.
La salle sur demande, oui. Mais en fait, c'est que tous ces noms-là sont aussi dans les livres. pour parler de la salle sur... Donc on parle de salle sur demande, effectivement, de la salle va-et-vient, et la salle des objets cachés.
Voilà. D'accord.
Donc, pour parler de cette salle-là, on a ces trois noms.
Okay.
Et donc c'est une salle qui apparaît lorsqu'on la recherche.
Ou quand on a besoin, surtout.
Quand on a besoin, effectivement. C'est plus précis. Livre 6, Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Quel objet permet à Harry d'obtenir des résultats exceptionnels en cours de potion?
Harry ou à...
Harry.
D'accord, parce que...
Alors j'ai plusieurs propositions, si vous voulez. Une fiole de Félix Felicis, un manuel annoté ou un chaudron en or.
Alors la Félicis...
Ah non, c'est le manuel, c'est le fameux manuel.
Non,
peut-être.
C'est la truc Félicis là, je ne sais plus comment t'as
tu
dit.
Crois?
La fiole de Félix Felicis.
Ouais, peut-être qu'il prend ça.
Non, moi je dirais le manuel. Ouais, justement, il était annoté par le méchant.
Oui, il a spoilé.
Par Voldemort.
Ouais,
Manuel aussi.
Hein, c'est Manuel, ouais, c'est ça. Par Voldemort, ouais. Qui s'appelle Judor.
On s'excuse, du coup, on spoil peut-être certains pour certains.
Judor, ouais. C'est une des reliques de la mort, ouais.
Ah, ouais, c'est ça. C'est bien le manuel annoté, mais c'est pas une.
C'est pas une relique de la mort.
C'est pas une relique de la mort.
D'accord.
Par contre, effectivement, dans le film, il y a bien, et dans le livre, du coup, il y a bien une fiole de Félix Felicis.
Et c'est pourquoi?
Alors la fiole de mémoire, c'est une fiole qui apporte la chance, donc Félix en latin. Et donc c'est un cadeau que lui fait son professeur pour avoir réussi. Je ne sais plus dans les détails, mais une potion.
Très bien. Oui, non, mais on te croit.
Une espèce de trophée.
On te croit sur parole.
Bref.
T'as un bon point.
Un bon point, si tu veux. Donc, c'est le manuel avancé de préparation des potions, effectivement, donc qui est annoté, du coup. Ce livre appartenait autrefois à Severus Rogue, qu'il avait signé sous le pseudonyme de...
Ah non, c'est à Rogue. Ah,
oui, à Rogue. Oui, c'est Rogue. Je ne sais pas ce qui a été dit.
Ah oui, non, je pensais que c'était à Thomas Gédisor, mais non,
non,
en fait,
non,
c'est Rogue.
C'est Rogue.
D'accord.
Qui est, du coup, le prince de sang-mêlé.
Ah, c'est ça.
D'où le nom du film.
Je ne me rappelais pas qu'il était de sang-mêlé, lui.
Et bah si. Oui, moi non plus.
Et si.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc c'était bien son manuel à l'époque où il était élève. Livre 7, Harry Potter et les reliques de la mort, justement.
Oui.
Quel est le dernier Horcrux que Harry doit détruire?
Le
serpent.
C'est le serpent, oui.
Alors j'ai des propositions.
Ah oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Va pour les propositions.
Une bague, un serpent, lui-même.
Ah, non. Ah bah oui, non, tu as raison, c'est lui-même, il doit mourir.
Ah, oui, c'est ça, Harry?
Bah, Harry, parce qu'il a une partie du méchant en lui.
Et après, il ressuscite.
Et effectivement, il ressuscite.
Oh, bah, je me rappelle pas.
Il a la pierre de résurrection, mais effectivement, il était obligé de mourir, pour pouvoir tuer, effectivement. Donc, c'est lui, excusez-moi.
Exactement.
Le serpent, c'est
ça.
Juste
non, mais t'as tout dit, exactement. Okay. Est-ce que je peux
compléter? Je me rappelais pas, Potter, hein.
Je me rappelais pas qu'il devait mourir.
Alors, effectivement, il y a bien aussi un serpent et une bague à détruire, mais le dernier des derniers, c'est bien Harry qui doit se tuer. Enfin, qui doit mourir. Et donc pour avoir un peu plus de détails, donc lorsque Voldemort tente de tuer Harry quand il était bébé, une partie de son âme est venue se loger accidentellement en lui.
Ah.
Voilà, faisant de lui en fait un Horcrux accidentel. Voilà.
D'accord.
Et ça, il le sait pas, Voldemort.
Bah non, il l'aurait pas tué.
Il le sait sur la fin.
D'accord.
Il ressuscite avec la pierre, là, c'est
ouais,
ça, de résurrection.
Ah oui, bah, je me rappelle pas de ça.
C'est ça.
Si.
Très bien. Bon, on connaît bien, alors, du coup.
Oui,
alors, pressé de voir la série.
Vous m'avez impressionné.
Est-ce que tu es pressé de voir la série?
Bah, plutôt hâte. Ouais.
La série va.
Qui est en préparation, 2026.
Oui, l'année prochaine.
Ouais. J'ai vu des photos des nouveaux acteurs, mais. Oui, c'est ça.
Alors, une saison par livre. Donc là, vraiment, ça va être vraiment tout ce qu'il y a dans le livre.
C'est ça.
T'as déjà en photo les acteurs.
On a vu les acteurs.
Ça a l'air pas mal.
Ouais.
C'est assez ressemblant, je pense. Ouais.
Après, il y a des polémiques, parce que bon.
Sur la part, toujours.
Sur Rogue, notamment. Mais...
Ah bon?
Parce qu'il n'est pas. C'est pas un bon acteur?
Ils ont pris quelqu'un de plutôt racisé, en fait, Rogue.
Ah oui!
Ah, mais donc tu le dis, oui, c'est vrai. Oui,
ouais.
C'est vrai.
Après, c'est vrai, dans Harry Potter, c'était pas encore à l'époque. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. Ouais.
Voilà, bah bravo à tout le monde.
Bah écoute,
je ne sais pas si le chat a suivi, mais
si bah on allait vite quand même. Ils ont essayé, hein. Il y a des petites choses, mais ils ont essayé, mais bon, on y arrive quand même. Alors ah bah tiens, vous l'attendiez, c'est quoi
la question?
La question quoi?
La question in.
C'est l'heure de la question coquine. Vous en avez de la chance. Aujourd'hui est un commencement. D'où ma question. À quel âge moyen les Françaises et les Français ont-ils leur premier rapport sexuel?
Alors,
pour les filles ou les garçons, bah, ou moyen de...
Non, bah, pour les filles et pour les garçons, alors on va donner deux âges.
Ouais.
Alors les filles, le premier rapport.
Alors les filles, je dirais 17.
Ah, j'aurais dit encore plus récent, moi. Enfin, plus jeune.
Mm-hmm. Ah ouais, moi, ça dépend dans quelle
7 pour les filles et peut-être 15 ans pour...
En France.
Et peut-être 15 ou 16 pour les garçons.
Si, pour les garçons.
Ouais. Alors 16 garçons et 17
filles. On parle pas du bisou, hein. On parle du rapport sexuel.
Eh ben, j'aurais dit l'inverse, tu vois. Ah. Ouais, j'aurais dit les filles plus tôt et les garçons plus tard.
Qu'est-ce qu'on en pense sur le chat, l'âge du premier rapport? Donc, est-ce que, Sandra, est-ce que t'as une idée, pour les enfants, le premier rapport?
17
pour les filles, pour les garçons? Pareil?
Ah, j'irais peut-être jusqu'à 15 pour les filles.
C'est vrai que les garçons sont un peu plus précoces, mais bon.
Ouais, 16 pour les deux.
Ouais. Bon.
Il a pas l'air satisfait, Bruno.
Bah, je ne sais pas.
Oh, il fait semblant.
Suspense.
On veut savoir.
On écoute la réponse.
Selon une enquête menée par l'INSERM, en 2023, l'âge médian du premier rapport sexuel est de 18,2 ans pour les femmes et 17,7 ans pour les hommes. Ce chiffre marque une légère remontée par rapport aux générations précédentes. Vers les années 2000, l'âge médian était en moyenne de 17,3 ans. Tu vois, Jonathan, il serait temps de t'y mettre. Au revoir les coquinous, et à bientôt pour une nouvelle question coquine.
J'ai pas entendu la
fin. Les garçons, on est d'accord, sont bien plus précoces.
Elle a dit qu'il serait temps de t'y mettre.
Ah bah voilà.
Ok, bon, eh ben oui, bah, c'est plus vieux qu'on croit.
Oui.
Bah oui.
Et
bah,
puis ça vois, devient encore plus vieux qu'avant.
Et ben bah, effectivement.
C'est une bonne nouvelle, je trouve.
En tout cas, ça change.
Ouais.
Enfin, les rapports entre garçons et filles là se modifient.
Ils ont le temps.
D'accord. Ils prennent le temps, ouais.
Faut pas se précipiter.
Pas le même vécu, mais oui, pourquoi pas.
Non, au vu aussi, tu vois, je suis surprise parce que au vu de l'accès aussi, enfin, à tout ce qui est vidéo, images.
Bah, c'est peut-être ça, justement, qui freine.
Qui freine, tu crois? Non, ça me surprend. Ouais. J'aurais pensé que ça aurait accentué.
De plus en plus tard, justement.
Ouais, de plus en plus tard, ouais.
Bah, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté des réseaux sociaux, tu vois, qui mettent un peu de distance, la rencontre.
Peut-être.
Il y a peut-être aussi un peu de ça, tu vois, le côté déconnecté.
Et après, c'est par vague. Hein. Si les parents étaient tôt, les enfants disent on va faire tard.
Bah, oui.
Il y a toujours ce contraste d'une génération à l'autre. Donc à voir. Et pour répondre à ma pie, dans le Nord, c'est les mêmes âges.
Oh.
Mais c'est en famille, c'est tout.
Oh.
Allez, c'est parti pour la personne mystère.
C'est le nom de la personne mystère. Écoutez bien son histoire et avec les...
Alors cette fois-ci, c'est donc Sandra qui est un personnage mystère. Qui c'est?
Est-ce que c'est à l'école, du coup, j'imagine.
Est-ce que c'est lié? Alors c'est peut-être lié à l'école ou à la rentrée. Ça peut être une autre rentrée aussi. Bon, on y va. C'est parti.
Ok.
Donc je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant les caméras, mais je ne suis ni acteur ni journaliste. Mon métier consiste à créer du lien avec les gens, à les faire participer, parfois même à les mettre un peu sous pression, mais toujours dans la bonne humeur. J'ai commencé ma carrière il y a plusieurs décennies maintenant. Au fil des années, j'ai eu la chance de côtoyer des personnalités très diverses, des anonymes aux célébrités, des sportifs aux intellectuels. Mon quotidien, c'est de poser des questions, d'encourager, parfois de consoler quand ça ne se passe pas comme prévu. Je travaille principalement pour la télévision française. D'ailleurs, j'ai récemment changé de chaîne, après avoir passé de nombreuses années sur le service public. Je viens de rejoindre une chaîne privée qui porte un chiffre dans son nom.
Oui.
C'est tout un changement d'univers. Mes émissions tournent souvent autour de la connaissance et du divertissement. J'aime quand les candidats se dépassent, quand ils trouvent des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas. Il m'arrive aussi de les accompagner dans des aventures assez épiques, disons avec des décors spectaculaires et des épreuves physiques plutôt impressionnantes.
Ah oui, non.
Mes initiales sont un club de foot du sud de la France.
Oui. Okay.
Alors qui suis-je?
Alors, François Sousseau, elle l'a trouvé rapidement, effectivement. Ouais.
Olivier Mine.
Olivier Mine.
Mais
effectivement.
Je ne savais pas qu'il avait été.
Il va sur
MC. Ou animateur de salle, ou je ne sais pas quoi, là.
Bon, il a fait plein de choses. Hein. Ouais. Il était speakerin avant, effectivement. Il a commencé comme ça.
Hein. Ouais. J'ai cru qu'on avait parlé de Anne-Sophie. Alors, pas... sur France 2, l'APIX, ouais.
C'était oui, qui... Arte du JT.
Bah, j'ai cru que c'était ça, et puis, la fin, je me suis dit, ah non, c'est pas ça.
En tout cas, ah, Mathieu a trouvé.
Il y a eu la rentrée de Léa Salamé, c'est pour ça.
Oui, bah, il y a eu beaucoup de rentrées. Justement, c'est la rentrée télévisuelle. Eh ben oui. Elle est maintenant,
C'est quoi le mercato? On sait, non? Parce que j'ai pas été informée, moi.
Ah ben, il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait faire une émission sur le, en tout cas, rassure-toi, Hanouna est revenue.
Ah, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Avec tout, tout neuf sur W9. C'est en ce moment, d'ailleurs. Oui, c'est en même temps qu'on parle.
Ah, bah oui.
Voilà.
Écoutez-nous.
Et c'est exactement la même chose que ce qu'il faisait sur C8. C'est exactement la même chose. Donc, ça promet. On joue à jouer avec l'IA maintenant?
Ah oui.
Allez.
C'est
parti.
Il est temps de jouer avec l'IA. En indice des paroles, il y aura. Grâce à elle, la réponse tu trouveras.
Les jingles ont un peu changé, hein.
C'est presque pop.
C'est presque pop cette fois-ci, hein. Alors, c'est la rentrée scolaire aussi, donc voici la table des matières. Vous allez donc écouter les paroles pour découvrir un sujet sur les thèmes de la table des matières des enfants. Donc, on aura l'histoire, la géographie, les mathématiques, le sport, etc. On commence avec l'histoire et il faut trouver une date.
Quand un roi chassait et notait ses exploits dans son carnet secret, écrivant rien parfois.
Trois ordres se disputaient au château de marbre blanc pendant que grondait la colère des gens. C'était l'année où la prison tomba, un jour de juillet quand Paris se leva. Ces pauvres captifs furent enfin libérés, heure où l'ancien monde allait s'écouler.
Alors l'ancien monde s'est écroulé à quelle date donc? Ma pile a trouvé.
Le 14 juillet,
oui,
1789.
1789, très bien. Allez, maintenant on change de sujet, on va en géographie. Il faut trouver un fleuve.
Oh. Deux frères de couleurs différentes se rencontrent au Soudan. L'un tout blanc, l'autre foncé par le limon qu'il prend. Depuis des montagnes lointaines vers la mer, ils vont couler. Un grec ancien disait qu'un pays en était le don à jamais.
C'est le plus long géant qui traverse 10 nations. Du sud vers le nord, il coule sur 6700 portions. Dans son delta triangulaire pousse la plante des scribes, crocodiles et pharaons y dansaient sur ses rives. Le fleuve du papyrus où naissent les pyramides, Hérodote l'appelait le don qui jamais ne se divise. Oh, oh, oh.
Happy à trouver, et donc ici ils ont trouvé aussi ce son rapide, hein, dis donc, hein, aussi, et Olivier encore plus rapide, c'était
le Nil,
effectivement,
ah non,
qu'il fait trouver.
J'ai trouvé rapidement, non. J'ai trouvé tardivement.
Alors on va, bah, les mathématiques maintenant.
Oh là là, aïe,
Soso,
là
tu vas plus trouver comme ça.
C'est ma bête noire, ça.
Ah ben oui, allez, le nom d'une formule.
Oui,
sur une île en mer, et j'y flotte un vieux mot savant. Un sage au pied nu. Trois côtés élégants et cache dans ses figures des secrets éclatants. Dans le triangle droit, le plus long fait le roi. Le grand côté en caridicéenne sans émoi. Depuis 570 avant Jésus-Christ, c'est la loi. Les petits côtés s'unissent et le miracle se voit.
On devrait faire les maths en chantant, hein. Ce serait
c'est
bien comme ça. Hein.
Sur les arêtes. Là.
Alors oui, donc c'est une histoire de triangle, effectivement.
Et triangle rectangle, même.
Et triangle rectangle. Mmh. Donc c'est A carré égale 2B. C'est quoi ça?
Attends, je cherche un petit sèche parce que je m'en souviens plus.
Bon, alors ça s'appelle comment? Voilà.
Ouais, c'est
et ça s'appelle comment? Parce qu'il vient de nous rejoindre Clément ici.
Le théorème de
Clément, c'est le théorème de
Pythagore.
Pythagore, très bien. Allez, on
qui
continue.
Ne sert à rien.
Avec un. Mais si,
enfin,
ça sert.
Pour
toi.
Pour le quotidien.
Allez, on va en sport maintenant. Hein, voilà. Oh. Allez, on va faire du sport. Il faut trouver un sportif. Hein.
Dans les ruelles du sud résonne un bruit charmant. Un gamin joue pieds nus, son ballon tourbillonnant. De la cité phocéenne au stade éclatant, il file vers l'Italie, puis l'Espagne en triomphant.
Sous le maillot.
Donc, effectivement, oui, bah oui, mais ils ont trouvé aussi sur le, oui, le coup de boule, forcément.
Ah, bah oui.
Eh bah oui. On a elle a dit coup de boule, bah oui, effectivement. Donc, c'est Zinedine Zidane. Allez, on fait SVT, biologie maintenant. Ah. Un membre du corps.
Sous la forêt secrète dort un fruit étonnant. Sa peau fine le cache comme un bijou luisant. Un petit chêne au sommet éclatant, dévoilé par le temps, il devient surprenant. C'est la fin du pénis, prépuce en couverture, organe très sensible, rempli de nervures. Tel un lama, il vous murmure jusqu'à vous cracher à la fille.
Sérieusement.
Non mais
franchement,
ma pie elle a pas trouvé.
Elle a pas trouvé.
Elle est nulle en biologie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi
Par contre, la musique est vachement bien. Les paroles un peu moins, mais la musique.
Voilà. Alors donc cracher à la figure, je trouve ça. Oui, c'est formidable. Alors c'est quoi?
C'est le gland.
C'est le gland. Bien sûr, c'est le gland. C'est le gland. On va parler en anglais maintenant. Il faut trouver. une ville américaine. Alors effectivement, vous l'avez, c'est donc
Las Vegas.
Et le dernier cours d'aujourd'hui, c'est le cours de français.
Ah. Oh.
Il faut trouver un auteur.
Dans la fumée des mines résonne un chant troublant. Les faubourgs enivrés s'écroulent lentement. Sous la plume acharnée naît un cri fulgurant. Un géant de papier combat le mensonge oppressant. C'est l'auteur des Rougon-Macquart en roman. Son j'accuse fit trembler le pouvoir arrogant. Né le 2 avril 1840 éclatant, la France se souvient de son nom éclatant. C'est l'auteur des Rougon-Macquart en roman. Son j'accuse fit trembler le pouvoir arrogant.
Et effectivement, ma pile l'a trouvé, et c'est Émile Zola. Bravo! Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, vous en êtes bien tiré. Si vous aimez jouer avec l'IA.
C'est parce qu'on a fait nos devoirs cet été.
C'est vrai, c'est vrai. Si vous aimez jouer avec l'IA, retrouvez notre jeu sur l'onglet Podcast Plus du site radio-g.fr. Allez, c'est la fin du QG, l'émission où on joue ensemble. Merci à tous ceux qui ont participé sur le chat. Il y avait du monde ce soir. On espère que vous êtes amusés, que peut-être vous avez appris des choses. En tout cas, nous, on a passé un bon moment avec vous. Merci aux membres du QG. Merci Jonathan.
Merci.
Merci Sandra.
Merci.
Merci Olivier.
Merci.
Merci Sonia.
Merci à tous.
Et puis un petit coucou à Clément qui nous a rejoint là, qui viendra aux prochaines émissions. Hein?
Oui, tout à fait.
On va trouver un moment pour venir quand même.
Il rempile. Rempile pour une deuxième saison.
Oui. Samedi prochain, c'est la grande émission de rentrée de Radio G à 10h. L'occasion pour vous de découvrir la nouvelle grille des programmes de Radio G. Donc on compte sur vous, vous pouvez écouter de 10h à midi sur notre antenne. Pour le QG, eh bien c'est quand vous voulez sur le site Radio G, hein, radio-g.fr. Et pour le direct, eh bien ce sera mardi dans 15 jours à 19h. Donc faites vos jeux et à bientôt dans notre QG.
Refaire notre QG. Pour ce jour on prend congé. Avec nous, vous avez joué.
Avec vous, on s'est bien amusé. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Ce sera aussi un mardi. Alors n'ayez pas trop de peine. Et pour rester enthousiaste, vous avez les podcasts. Rendez pour ce faire sur radio-g.fr. C'est fini pour aujourd'hui.